bienvenue dans le podcast Sur le champ. Enfile tes bottes, on t'emmène chez les agriculteurs qui innovent partout en France. Nous sommes Ambre et Camille, deux étudiantes curieuses et aventureuses. On aime planter des tomates, manger du fromage et conduire des gros tracteurs. Et voilà, on se pose une question. Qui sont ces héros qui garnissent nos fourchettes?
Alors direction les champs, on part un an sillonner la France à la rencontre d'agriculteurs inspirants. Laissez-nous vous embarquer dans leur quotidien le temps d'un épisode. Et d'ailleurs, les recettes générées par le projet seront reversées à l'association Solidarité Paysan. Allez, c'est parti!
Alors aujourd'hui, on vous emmène à la découverte d'une ferme laitière bien gourmande qui risque d'en faire craquer plus d'un. Nous sommes avec Hélène et Arnaud Follet à Saint-Vat-d'Yepdal en Normandie, une région qui a sa propre race de vaches, la Normande. Et c'est la race fétiche du couple Follet qui a décidé d'en élever pour leur lait. Et ils en font des merveilles. Car depuis 10 ans, Hélène a installé son labo de transformation sur la ferme et confectionne des glaces, des yaourts et des crèmes dessert. Et on peut vous dire qu'elles sont très très bonnes. On parle en connaissance de cause car ça fait maintenant 2 semaines qu'on travaille à la ferme avec Arnaud sur la partie élevage et avec Hélène sur la partie transformation.
Donc vous l'aurez compris, il y a 2 principaux protagonistes dans cette histoire. Et on va commencer par discuter avec Arnaud. Salut Arnaud.
Bonjour.
Hello. Merci beaucoup de nous accueillir sur cette ferme qui est donc une ferme familiale. Donc tu es la 4e génération si on ne se trompe pas.
Troisième.
Est-ce que tu peux commencer par nous présenter cette ferme et nous en dire un peu plus sur ton activité au jour le jour?
Alors, cette ferme, c'est une ferme de polyculture élevage laitier. Donc, il y a une partie culture où on fait du blé, du lin, des betteraves sucrières, du colza, du maïs en silage pour les animaux. Et après, il y a une partie élevage. Donc, avec l'élevage laitier, on a une 60aine de vaches laitières. Donc on garde tous les animaux et en plus il y a un atelier de torréon, d'engraissement que j'achète des animaux à l'extérieur.
Ok, et donc tu as combien de vaches et de quelle race justement?
60 vaches normandes.
Normandes, ta race.
J'ai quelques Primostein quand même, mais ma vache.
Pourquoi est-ce que tu affectionnes particulièrement cette race?
Alors parce que c'est une race qui est mixte, donc elle est aussi bonne pour sa viande que pour son lait. Et puis ce que j'aime bien c'est sa qualité du lait aussi, parce qu'elle a des taux de matière grasse, matière protéique est assez élevé, donc pour notre partie transformation ça nous aide bien pour avoir des bons produits.
Ok, et du coup t'as repris cette ferme il y a maintenant 13 ans?
Il y a 13 ans ouais, en 2007, donc j'ai pris la suite de mon père, qui était avant, c'était celle de mon grand-père. Donc, on n'a rien changé trop, question élevage, ça n'a rien changé. La grosse nouveauté qu'on a apportée, c'est surtout Hélène qui l'a apportée avec la transformation à la ferme.
Et qu'est-ce qui t'a convaincu pour reprendre la ferme? Pourquoi est-ce que tu l'as pris? Est-ce que c'était une activité qui te passionnait et...
Alors ça, on tombe dedans quand on est petit. Voilà, j'ai toujours travaillé à la ferme, toujours aidé mon père, donc puis voilà, donc je me vois pas trop faire autre chose encore aujourd'hui, mais
c'était une évidence quoi.
C'est une évidence. Ouais. Je pense que quand on vit le métier dès tout petit, donc c'est vrai qu'après.
Tout à fait. Et donc un gros élément de ton métier, c'est la production laitière. Nous, on a pu participer au cours de ces 3 semaines donc aux traites quotidiennes qui rythment la journée de l'éleveur, mais qui sont très très rigoureuses. Donc on a 2 traites par jour. À quelle heure est-ce que ça commence?
Alors nous, ça commence à 6h le matin jusqu'à environ 8h que pour ce qui est partie traite, hein, parce que après il y a tout le suivi de l'élevage, qui est la simple l'alimentation, la surveillance, l'abreuvement, et après il y a tout ce qui est aussi entretien, comme changer la paille, tout ça. Donc c'est vrai que ça nous fait du boulot toute la journée.
Ouais, ça c'est sûr, il y a du travail. Mais peut-être commençons par le béaba. Alors comment obtient-on du lait? Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'une vache produise du lait?
Alors, pour avoir du lait, faut une vache déjà, mais il faut un taureau aussi. On l'oublie souvent, le taureau, mais il est important parce que faut un petit veau pour avoir du lait. Donc, tous les ans, faut que notre vache produise un veau, et à laquelle de ça, ça lui déclenche une lactation. Et du coup, elle nous donne du lait environ pendant 7 mois à la suite.
Et justement, ensuite, qu'advient-il du petit veau?
Alors ici, nous, tous les veaux sont gardés. On garde toutes les femelles pour faire des futures vaches. Et tous les mâles, nos mâles normands, la majorité sont engraissés et sont vendus au magasin en caissette en veau gras.
D'accord. Et la séparation, du coup, entre mère et veau se fait de manière assez naturelle, sous combien de temps?
Alors, souvent, on les laisse entre 12 et 24 heures avec leur mère pour la première tétée, pour le colostrum, et après, on les sépare.
Ok. Et par vache, du coup, combien de lait est produit par vache et par jour? Et surtout, pendant combien d'années?
Alors, combien d'années? Alors, nous, je vais vous donner la production par an. On a à peu près 7000 litres de lait par vache. Et souvent, elle nous fait 5 lactations.
Okay.
Donc, une vache reste à peu près 8 ans sur l'exploitation. Parce que avant son premier veau, il faut qu'elle ait atteint l'âge de 3 ans. Donc, plus 5 lactations, ça fait.
D'accord. Donc, en fait, une vache donc, va produire du lait à partir de 3 ans. Ensuite, va avoir 5 veaux. Et à 8 ans, donc, elle arrive à la fin de sa vie.
Oui.
Et, ce qu'elle, et l'avantage avec les races normandes, c'est que ça fait aussi une très bonne viande, c'est ça?
Voilà, donc après on valorise donc les vaches. J'avouerais que souvent quand même c'est plus des jeunes que je passe en partie abattoir pour revendre au magasin, parce que la viande est de meilleure qualité. Donc après il y a aussi des vaches que par exemple ils prennent pas à l'insémination. Donc s'ils prennent pas à l'insémination, s'ils ont pas de petits veaux, je peux pas, enfin je peux pas tout garder. Donc et donc là on le valorise directement au magasin. Oui.
Ok, ça marche. Donc il y a du lait, de la viande, mais aussi de la crème.
La crème, donc on écrème deux à trois fois la semaine, ça dépend un peu de la saison. Donc on vend directement de la crème et après on en met aussi dans les glaces.
Ok, oui, on parlera plutôt de la partie glace avec Hélène pour qu'elle nous parle de ses recettes gourmandes. Et on voulait te parler d'un autre aspect très important dans la vie de la ferme et dans ton métier, surtout l'été, c'est la partie culture. Donc, tu as aussi 130 hectares dédiés à la culture. Qu'est-ce que tu fais pousser et surtout à quelle destination?
Alors, je fais du blé. Donc, du blé, c'est vraiment à la destination. Il y en a une partie qui est en semence, qui est pour... je suis multiplicateur, donc c'est pour revendre de la semence à d'autres agriculteurs. Après, j'ai la partie betterave sucrière, donc du sucre. Avec ça part là à 20 km de la ferme dans une sucrerie. Après j'ai la partie lin où j'en fais aussi une vingtaine d'hectares. Donc là c'est pareil, c'est en coopérative, ça part il y a une trentaine de kilomètres d'ici dans une linerie. Qu'est-ce que j'ai oublié? Après j'ai du colza diester avec la filière diester pour biocarburant, tout ça. Et voilà, puis après le maïs en silage qui est vraiment autoconsommé.
Voilà, justement, parlons d'autoconsommation. Donc il y a une partie des cultures qui sert à nourrir ton bétail. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que du coup tu as besoin aussi d'autres aliments?
Donc je prends aussi des dérivés de produits, comme je pense aux betteraves, je prends la pulpe surpressée. C'est en gros, pour expliquer grossièrement, mais c'est le déchet de la betterave une fois qu'on a retiré le sucre. Donc ça revient sur l'exploitation et du coup je le valorise en le redonnant à mes animaux. Et après j'achète un petit peu d'aliments à l'extérieur.
Ok. Et concernant cette partie culture, du coup, quel temps est-ce que ça te prend dans ton emploi du temps selon la saison? Est-ce que voilà, t'as plusieurs casquettes. Quelle est la casquette qui prime?
Ah, la casquette qui prime, ben ça dépend un peu de la saison. Donc c'est vrai que l'hiver c'est vraiment l'élevage où je suis déduit. À 80% quand même, on va dire, parce qu'il y a 20% qui font comme là un petit peu de mécanique l'après-midi entre deux, tout ça. Donc ça fait partie aussi de l'été des cultures. Et ben c'est vrai qu'après, plus qu'on arrive vers l'été, plus que ça s'inverse, je passe quand même pas mal de temps aux cultures. Mais c'est vraiment lié à la météo, hein.
Ok, ouais. Et les cultures ici, justement, elles poussent bien, elles poussent parce que les terres sont assez fertiles dans la région.
Donc on a une chance, c'est qu'on a un climat qui est, il fait pas trop chaud l'été, assez humide, et puis des terres, c'est limon profond, donc oui, ça pousse assez bien, en règle générale.
Mais c'est des terres qui valent plus cher?
Malheureusement, oui. Ouais. Oui, oui, je me suis pas agrandi quand je me suis installé parce que donc la profession foncière est forte par ici.
Mais du coup, à quel prix concrètement?
À quel prix si on veut acheter un hectare de terre, c'est entre 15 et 20 000 euros.
C'est particulièrement cher pour la France.
Ben ouais, puis enfin c'est pas le tout d'acheter, il faut avoir une rentabilité derrière.
Ouais, c'est
quoi.
Ça. C'est que du coup, on s'assoit comment, c'est il faut faire un gros volume ou alors en grande qualité pour s'y retrouver financièrement?
Oui, ben après ça dépend des cultures qu'on met en place dessus. Entre du blé, en gros, qu'on peut arriver à tirer 1000 euros de l'hectare, et puis donc du lin qu'on veut arriver à 4000, 5000 euros de l'hectare. Donc voilà, mais après on peut pas non plus faire 100% qu'une seule culture, faut une rotation dans les cultures pour avoir une meilleure efficacité, et puis pour même aider pour le désherbage, tout ça, faut avoir une bonne rotation des cultures.
Et ensuite, donc, ces cultures sont vendues à des coopératives, mais dépendent des cours mondiaux.
Oui.
Donc, par exemple, si on prend le cas du lait, du blé,
Du
pardon.
blé.
Ouais, le blé, du coup, c'est une culture rentable, mais qui va dépendre aussi des cours mondiaux.
Ah ben alors la grande interrogation quand on sème, c'est combien on le vendra. Et même une fois qu'on l'a récolté, hein, on ne sait pas combien qu'on le vendra, parce que c'est ça, c'est que des cours mondiaux qui se mettent en place là derrière. Donc c'est le grand interrogation, quoi.
C'est ouais, le revers de la médaille de la mondialisation, quoi.
Oui.
Ça vient impacter des activités plus à petite échelle comme ça. Mais par exemple, le lin, le prix est fixé de la même façon?
Le lin, alors c'est fixé aussi de la même façon parce qu'il y a beaucoup d'exports qui vont vers la Chine, tout le lin part vers la Chine. Donc là, nous, il est transformé ici dans un teillage, il est teillé, mais après il part en filature pour la Chine et il revient en t-shirt, sauf que là, avec les Covid et tout, ça a été vraiment, c'est vraiment en train de nous impacter
C'est
énormément.
sûr. Et parce qu'il n'y a pas de. Du coup, la filière du lin en France n'existe pas plus que ça, quoi.
Et elle va pas jusqu'au
Un
bout
peu
de la
jusqu'au
chaîne.
bout.
C'est compliqué, même pour tous les produits, hein, on a du mal d'aller jusqu'au bout, hein. Nous, à la base, agriculteurs, on était producteurs. Donc là, on arrive à aller au bout. C'est notre petit exemple à la petite échelle ici, avec une petite partie du lait, mais c'est compliqué d'aller jusqu'au bout de la chaîne pour tous les produits, quoi.
Parce que le lin, c'est un produit assez intéressant quand même, du coup, qui rapporte un peu plus d'argent déjà et qui a des propriétés. Voilà, à quoi ça sert à faire du lin après,
Alors,
à part le t-shirt.
ouais, enfin, donc après, il y a des sous-produits aussi du lin qui peuvent servir dans les tableaux de bord. On peut faire du panolin, du bois avec du lin. Ça va dans les raquettes de tennis. Il y a vraiment tout un dérivé de la plante. C'est une plante qui est très fragile par contre à la récolte, mais qui demande pas beaucoup d'engrais et qui pousse assez bien dans notre région, quoi.
Donc on retire la graine et après on utilise la fibre.
Oui.
C'est ça, d'accord. Et c'est assez courant en Normandie, la culture du lin, non?
On est les premiers producteurs mondiaux dans le pays de Caux, le lin. Ouais. Chez nous, tout
La
le monde fait
fierté
un
du
petit peu de
pays.
lin. Ouais. C'est une
Ok.
fierté.
Donc on voit déjà que les cultures sont très variées et en fait à l'image de la ferme et de ton personnage, disons, parce que donc t'es polyculteur éleveur, donc tes occupations varient aussi en fonction des saisons. Et pour en revenir du coup sur la production laitière, nous on s'est posé pas mal de questions, notamment donc en lien aussi avec l'activité de Hélène. Quelle partie de la production de lait justement est transformée sur la ferme?
Donc il y a environ 10% de notre lait produit qui part directement dans notre labo.
Et le reste, du coup?
Et le reste, donc ça part en laiterie chez Sodiaal, c'est une coopérative.
Ok. Et tu nous disais l'autre jour que la partie qui part au labo est pour toi la transformation un peu la plus intelligente, la meilleure qu'on puisse trouver entre une coop et un labo
Ben,
sur
c'est quand
place.
même mieux d'aller jusqu'au bout et puis d'arriver à faire venir son client chez soi et de le valoriser soi-même. Mais après, c'est compliqué. Je crois que j'arriverai jamais à transformer 100% de mon lait. Faut être réaliste aussi, mais
Ouais, il faudrait quatre Hélènes.
ouais, c'est ça. C'est déjà bien d'en faire 10%.
Et une Hélène, ça court pas les rues non plus. Donc, donc concrètement, quand ton lait est vendu à la coopérative, il est vendu à quel prix?
Donc il est vendu entre 30 et 35 centimes.
D'accord.
Et donc ça, c'est le prix de base. Et après, il y a le prix qualité. Donc qualité, on peut rajouter entre 10 et 15 centimes. Donc on peut arriver à 45 centimes à peu près vendu à la laiterie.
Donc un lait de meilleure qualité, c'est un lait qui va avoir donc plus de protéines par exemple.
Voilà, donc la matière grasse, la matière protéique.
Ouais.
Et après, ce qu'il faut faire attention, c'est les butyriques, les cellules et tout ça. Donc les cellules, tous les butyriques, c'est différentes choses qui se mettent, qui sont à cause de ça. C'est lié surtout à la traite déjà, la base, l'hygiène de la traite. Et après, il y a tout ce qu'en découle, le paillage, l'alimentation, d'avoir des abreuvoirs propres, tout ça.
Donc si je comprends bien, ton lait a un petit bonus enfin, pour sa qualité. Mais est-ce qu'on s'y retrouve, hein? Quels sont tes coûts de production donc, pour un litre de lait
Donc, pour 1 litre de lait, on tourne environ à 30, 35 centimes. Donc, on voit que la marge d'erreur, elle n'est pas grosse.
Ouais.
Ce qui est toujours compliqué, c'est quand il y a les investissements, comme moi qui viens de s'installer, quoi.
Ouais, c'est sûr, mais comment est-ce qu'on en est arrivé là? Parce qu'on se dit un peu, on marche sur la tête quand on voit que c'est si peu rémunérateur comme activité, alors que c'est si
Ben,
rigoureux.
c'est qu'on va pas jusqu'au bout. Comme on dépend des laiteries, des grandes multinationales qui savent très bien combien on produit, je vois pas pourquoi ils vont nous donner 50 centimes du litre de lait, hein. Ils se disent que de toute façon, là, on arrive à tenir, donc on va continuer comme ça, quoi.
C'est vrai que quand on étudie du coup un peu la production laitière, il y a un peu une question qui revient, mais c'est enfin pourquoi on continue? Enfin pourquoi on continue de produire du lait quand les prix sont pas rémunérateurs? Et je trouvais ça assez intéressant justement de voir dans ta ferme que l'élevage a une place assez centrale pour comprendre la ferme dans sa globalité avec les cultures. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce point-là du coup?
Oui, parce que enfin, alors moi je trouve qu'on a une chance. Donc comme là, c'est vrai qu'il y a plein de choses. Enfin, si on peut dire dans l'agriculture, si on compte bêtement sur un bout de papier, on va se dire que les vaches, vu le temps qu'on y passe, si on compte son taux horaire, c'est sûr qu'on gagne pas grand-chose de l'heure. Mais après, c'est un ensemble qui fait que ça devient rentable. Par exemple, moi surtout l'élevage avec les cultures, je trouve que c'est bien lié parce que il y a tous les effluents d'élevage qui reviennent dans les cultures et du coup ça m'apporte de l'engrais à moindre coût et puis je sais d'où ça vient, quoi.
Mais donc un éleveur laitier seul sans culture, sans revenu de la culture, ne pourrait pas s'en sortir? Ou très compliqué?
Après, ça dépend. Chaque sujet d'installation est différent, hein. Ça dépend si on est propriétaire, si on achète, tout ça. Mais et après, on s'aperçoit encore plus là quand il y a une crise. Faut faire gaffe parce que quand on n'a qu'une production, là, on peut soit vraiment fleurir, mais ou sinon, on peut vraiment du coup être impacté, quoi. Là, sur la ferme, le fait d'avoir plusieurs productions, un peu de culture, un peu de lait, un peu de vente directe, bon, mais du coup, c'est un ensemble de choses qui fait qu'on essaye d'avancer comme ça.
Ouais, donc la crise du Covid a eu un vrai impact sur la ferme ici, concrètement.
Ah bah ouais, là, on est en plein dedans, on arrive dans Noël et puis on sait pas ce qu'on va vendre déjà pour nous, notre transformation. Après le lait, à un moment ils nous ont dit qu'il fallait qu'on réduise nos volumes parce que ils avaient trop de lait.
Ah oui.
Le lin, tout est arrêté avec la Chine, donc ça a l'air de vouloir repartir, mais c'est de toute façon là on est bien impacté.
Ouais, c'est sûr. Et sur un volet tout autre, mais qui a sa part d'importance, c'est un sujet très sociétal, l'élevage, le bien-être animal, du coup, dans l'activité d'élevage. Voilà, pourquoi est-ce qu'on produit du lait et de la viande? Ici, quelle part a le bien-être animal dans ton troupeau? Et qu'est-ce qu'en fait le bien-être animal? C'est-à-dire que est-ce que c'est pâturer toute l'année? Est-ce que c'est une partie de l'année en bâtiment? On aimerait bien avoir ton œil d'éleveur là-dessus.
Alors l'œil d'éleveur, moi ça me fait bien rire quand j'entends le bien-être animal, Parce que ça fait 13 ans, mais même, ça fait, je vais avoir 40 ans, mais bon, donc ça va faire une bonne vingtaine d'années que je suis dans l'élevage. Et le bien-être animal, on n'a pas attendu d'être en 2020 pour en parler. Parce que si on veut que nos animaux produisent et nous le redonnent, faut bien qu'il y ait du bien-être animal derrière. Faut des animaux en bonne santé, bien alimentés, un bon suivi, et voilà. Donc le bien-être animal, on y attache un point important dans tous les élevages.
Donc justement, là en ce moment, les vaches sont en bâtiment pour la majeure partie donc, de ton troupeau.
Tout le monde depuis ce matin.
Voilà, tout le monde depuis ce matin, les dernières génisses sont rentrées.
Ouais.
Pourquoi on les rentre en bâtiment l'hiver ?
Pourquoi on les rentre ? Donc autant l'été, on aime bien faire du camping dehors, autant l'hiver on n'aime pas, donc les animaux c'est pareil. Donc c'est pour ça que nous on les rentre du mois de novembre, décembre, ça dépend un peu des saisons, jusqu'au mois de mars. Et après ils ont une partie où ils font ce qu'ils veulent, ils peuvent rentrer ou sortir et souvent l'été ils restent dehors.
Et on avait quand même rencontré pendant notre séjour un pareur, qui est donc quelqu'un qui soigne les sabots des vaches. Il nous a expliqué que le fait de les retirer de leur milieu naturel qui est l'herbe va venir provoquer plus de dégâts aux sabots et de maladies. Donc il faut trouver en fait un bon équilibre entre l'intérieur et l'extérieur pour éviter tout ça et pour trouver la situation optimale pour l'animal.
Oui, alors c'est même pas l'animal, c'est normal que il soit mieux à l'extérieur et puis mais aussi si on laisserait tout l'hiver dehors, il serait pas bien. Donc du coup, alors moi je suis en air paillé. Donc voilà, il se couche dans la paille tranquillement, c'est vrai que ça se passe bien.
Et justement en fait, tu fais aussi très attention chaque jour à leur bien-être en paillant, c'est quand même un sacré travail ça chaque jour de pailler justement.
Oui, on a
la stabulation.
On a la chance d'être mécanisé quand même aujourd'hui. C'est plus à dérouler les bottes de paille à la main, mais oui, il y a le paillage tous les jours des animaux, enfin des vaches laitières, et on vide la stabulation toutes les semaines dans la fumière. Alors tout ça, c'est pour donc ça fait partie du bien-être animal, si on peut dire, et de la qualité des produits qu'en découle aussi.
Donc on comprend bien qu'aujourd'hui, être éleveur, c'est pas forcément toujours facile. Il y a un emploi du temps qui est bien chargé. En plus, en ce moment, il fait quand même un peu froid dehors quand on se lève à 5h du matin. Qu'est-ce qui te motive, toi, justement, à sortir du lit à 5h du mat ?
Ah, qu'est-ce qui me motive ? Oh, je peux même pas trop dire ce qui me motive, mais j'aime bien mon métier. Moi, ce que j'aime bien, surtout, c'est la polyvalence. Enfin, c'est ça, c'est d'être éleveur, d'être un petit peu céréalier, et puis d'aller à des moments aider au labo aussi. Donc voilà, j'aime bien la polyvalence du métier.
Tout à fait. Et le fait d'avoir choisi d'implémenter un labo, c'était aussi une volonté de remettre de la valeur ajoutée sur la ferme. Et donc toi tu y participes aussi avec Hélène et donc est-ce que on passerait pas à la partie transfo avec Hélène ?
Ça marche.
Merci pour ton temps Arnaud.
Merci.
Et merci de nous avoir fait découvrir ton élevage et tes normandes.
Merci.
Donc hello Hélène.
Salut.
On arrive au royaume de la glace de la ferme avec Hélène qui s'est installée il y a maintenant 10 ans. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer dans cette activité et comment est-ce que tu t'es installée avec Arnaud ?
Ce qui m'a poussé à me lancer dans cette activité, en fait, je travaillais à l'extérieur. J'étais conseillère particulière dans le secteur bancaire et je suis native du milieu agricole et donc j'ai toujours eu l'envie de revenir un jour à la ferme. Voilà, créer quelque chose. Je ne savais ni quoi ni quand. Et voilà, enfin 2009, l'idée s'est posée. Et puis en creusant un peu, on a déjà des voisins agriculteurs qui faisaient déjà de la vente directe avant nous. Et l'idée de se lancer dans la transfo, c'était plutôt de créer de la complémentarité avec nos voisins plutôt que de la concurrence. Donc au milieu du beurre, de la crème, des fromages, des volailles, du fromage de chèvre, d'une ferme auberge, etc. Il a fallu se creuser un peu pour trouver l'idée un peu innovante. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la crème glacée.
Et comment ça se passe alors au labo au jour le jour ?
Donc il y a des jours de fabrication, des jours de livraison et de vente au magasin. Voilà, c'est le planning de la semaine est toujours plus ou moins défini. Après, les jours de fabrication sont plus ou moins conséquents selon les demandes.
Ok, mais parce que nous, on a été vraiment marqués par le temps que ça représente la confection de glace artisanale, parce que la transformation, finalement, c'est pas juste quelque chose d'annexe à l'activité agricole, c'est vraiment un métier en lui-même. Est-ce que toi, c'est ce que tu imaginais en te lançant ?
Oui, parce que en fait, de par les différents stages que j'ai fait pendant mon cursus scolaire, parce que j'ai toujours fait de l'agroalimentaire, j'avais déjà une idée de ce que ça allait représenter. Après, effectivement, particulièrement en crème glacée, j'avais jamais fait, et d'autant plus par la saisonnalité quand même que représente le produit. Mais voilà, on s'adapte selon les commandes et le calendrier annuel.
Et donc justement, donc tu fais des glaces, des yaourts, des crèmes, des desserts. Comment tu procèdes? Donc le lait vient de la ferme, ça on le sait. Mais voilà, enfin comment tes recettes sont aussi bonnes et qu'est-ce qui fait leur différence avec des recettes plutôt qu'on peut trouver en grande surface?
Ce qui fait la différence, c'est la qualité du produit. Hein. Tu l'as dit, le lait, la crème, la race normande. voilà, la richesse de matière grasse de notre produit de base. C'est ce qui fait la qualité première de notre produit. Après, peu importe, on peut goûter 10 yaourts ou 10 crèmes glacées de 10 fermes différentes. On a chacun notre typicité, donc... Voilà, moi, ce que je mets en avant dans la qualité de nos produits, c'est quand même la qualité de notre ingrédient de base, qui est le lait issu de notre troupeau de race normande.
Mmh. Et un lait, du coup, qui prend combien en quantité, donc dans une glace, c'est une grande partie des ingrédients, le lait, finalement
C'est un tiers des ingrédients. Mmh.
Nous, en effet, on a eu la chance d'y goûter. C'est vrai que c'est vraiment délicieux, c'est onctueux. Et une fois qu'on commence le pot, on peut plus s'arrêter. Et pour les petits gourmands qui voudraient goûter, où est-ce que tu vends tes produits et quels sont, en gros, quelle est la filière de distribution?
Donc, on travaille en fait avec Glace de la Ferme, donc c'est en quelque sorte une franchise. Et du coup, on a un secteur géographique prédéfini de distribution pour pas qu'il y ait de concurrence entre les producteurs. Et donc, nous, on s'étend de Étretat jusqu'à Eu-le-Tréport, vraiment une grosse partie de la côte sénomarine. Et on commercialise au travers de restaurants, magasins de produits locaux et à la boutique à la ferme.
Donc justement, la boutique à la ferme, c'était aussi une volonté de proposer des produits issus de la ferme et en vente sur la ferme.
Ouais. Alors en fait, on a toujours eu depuis 10 ans une boutique où on a proposé au début uniquement nos crèmes glacées et par la suite, après le réaménagement d'un nouveau bâtiment, ça nous a permis d'obtenir une surface de vente de 50 mètres carrés et de pouvoir y proposer une gamme plus large de nos produits et d'autres produits locaux, de nos départements voisins. Ce qui permet d'offrir vraiment un panier assez sympa aux clients qui se déplacent jusqu'à nous.
Ouais, on a vu que c'est devenu une véritable épicerie de produits locaux et un magasin vraiment accueillant et qui se trouve vraiment à côté de la maison, qui est elle-même à côté du labo. Mmh. Vraiment, on est tout est ensemble. Il y a du passage. Est-ce que c'est l'image de la ferme telle que t'en rêvais quand tu t'es installée?
Je m'étais pas fait forcément d'image type. Après, on a fait évoluer l'atelier par rapport à l'évolution de l'activité. On a redécoupé un peu le schéma de cette maison, de ce labo, de ce magasin pour que justement ça soit accueillant et pour les clients et que ça reste aussi notre lieu de vie privé parce que c'est compliqué de vivre sur son lieu de travail. Donc faut essayer de garder des moments pour chaque il y a le moment du travail, il y a le moment de la vie de famille. Mais après, oui, effectivement, on a quand même la chance de vivre dans un cadre qui est quand même sympathique. Le lever du soleil sur la mare, c'est quand même sympa.
Et c'est vrai que t'es très occupée au labo, mais quand même, la ferme, la partie ferme a vraiment aussi de l'importance pour toi, parce qu'on peut peut-être le rappeler, t'es fille d'éleveur, t'es mariée à un agriculteur, t'as fait des études agricoles. Et donc, en fait, est-ce que t'arrives à garder quand même un pied dans la partie élevage, en plus de tout ce qui t'occupe au magasin et au laboratoire?
Donc je traie le week-end, samedi matin, dimanche matin principalement. Alors c'est important pour moi justement pour garder un pied dans la ferme, parce que j'aime ça aussi. Mais et puis ça me fait une coupure, ça reste dans le travail, mais voilà, ça me change de mes seaux et de mon étuve ou de ma chambre froide. Voilà, ça permet de garder un pied dans l'élevage et puis de continuer, voilà, à voir un peu ce qui se passe côté production.
Mais tout ça, ce à quoi s'ajoute la vie de famille avec trois jeunes filles qui vivent aussi sur place et qui, voilà, c'est la famille doit s'adapter aussi à la ferme. C'est assez particulier comme vie finalement. Mais vous avez l'air de bien vous y faire et d'apprécier.
On s'y fait. Est-ce qu'on a le choix? Enfin, voilà, c'est la vie qu'on a choisie. En tout cas, c'est vrai que parfois, on se pose un peu la question quand même de se dire, finalement, nos enfants, on leur fait peut-être plutôt subir notre vie que elles ont rien choisi du tout. Hein, donc, mais bon, ma foi, elles ont l'air d'être épanouies quand même dans cette vie-là.
Ça, on peut confirmer.
Mais c'est vrai que faut qu'on se rappelle à l'ordre quand même de ne pas oublier notre vie familiale par rapport à l'importance que prend notre vie professionnelle quand même.
Justement, c'est vrai que quand on voit les filles le week-end courir dans la ferme, jouer avec le poney et les oies, on se dit un peu que c'est un cadre idyllique. Et t'as, justement, tu m'as partagé une phrase qui moi m'a pas mal marquée. C'est voilà, c'est notre liberté, elle a un prix. Mmh. Est-ce que justement tu pourrais développer un peu là-dessus pour en faire part à nos auditeurs?
Oui, effectivement, la liberté, elle a un prix. Alors, on a fait le choix d'être indépendant. Voilà, au prix des sacrifices professionnels quand même qu'on fait, c'est pas simple tous les jours, loin de là, on organise nos journées, nos semaines, je vais pas dire comme on veut, parce que voilà, quand on a un magasin, une clientèle à satisfaire, etc., donc il y a forcément les impératifs de fabrication qui découlent derrière tout ça. Néanmoins, en parallèle de ça, si j'ai besoin de prendre une heure pour emmener une de mes filles au médecin, forcément je le ferai, et là pour le coup j'ai rien à demander à personne. Mais c'est des heures qui seront faites plus tard le soir, le week-end, enfin voilà. Donc, moi, quand je dis que la liberté, elle a un prix, c'est dans ce sens-là, quoi. Effectivement, on est libre de se prendre un peu de temps en semaine si on en a besoin. Par contre, c'est à un autre moment, très certainement, au détriment de la vie familiale, parce que de toute façon, le travail, il faut qu'il soit fait, quoi.
Ça, mais on parle de statut d'indépendant, mais il y a quand même une certaine dépendance, comme on en parlait avec Arnaud, au prix du lait, au prix du blé, qui, voilà, sont aussi le prix de la liberté. C'est vrai que c'est des données, des variables très compliquées pour ce type de métier. Et il y a une activité dont on n'a pas parlé, t'as encore une autre casquette, celle du gîte. Quand est-ce que ça a commencé, donc le gîte à la ferme ?
Le gîte, on l'a ouvert en juillet 2017. Donc ça rentrait un peu dans notre schéma agrotourisme qu'on s'est un peu bâti avec la vente directe en fait, hein, puisqu'on fait de l'accueil à la ferme, etc. Visite de groupe quand la situation sanitaire nous permet. Voilà, l'opportunité d'acquérir cette maison et d'en faire un gîte s'est présentée fin 2016. Voilà, le temps de faire un peu de travaux, etc. On a ouvert en juillet 2017.
Et donc justement, tu fais allusion à la situation sanitaire en ce moment, donc on est en pleine crise du Covid. Est-ce que ça impacte ton activité justement de vente de glace?
Alors pour une partie, oui, puisque je travaille avec des restaurateurs, donc forcément j'ai une partie de mon activité qui se trouve impactée. Et puis toute l'incertitude face à la consommation du public, quoi, enfin des particuliers qui est changeante. Entre le premier et le deuxième confinement, on est sur deux types de consommation complètement différentes, encore plus à l'approche des fêtes de fin d'année. Donc on navigue un peu à vue, quoi. Enfin, on essaye de répondre au mieux à la demande, mais sans trop avoir de visibilité par rapport à un schéma habituel, entre guillemets.
En tout cas, on produit toujours des bûches de Noël dans le labo,
tout à fait.
Qui sont toujours aussi bonnes, d'ailleurs. Mais en effet, il y a plein de difficultés qui se présentent, mais malgré tout, tu es quand même animé pour te réveiller tous les matins à 5 heures, si ce n'est plus tôt. Qu'est-ce qui te motive, toi, tous les matins, voilà, pour faire ce que tu fais? Où est-ce que tu puises l'énergie qui t'anime?
C'est la satisfaction client. Enfin, voilà, la volonté de, déjà l'organisation à la base, la volonté d'avoir une organisation familiale quand même plutôt pour la fin de la journée, ce qui fait que je préfère commencer tôt le matin et essayer d'être dispo pour mes enfants à partir de la sortie de l'école. Mais sinon, c'est la volonté du travail bien fait, servir un produit de qualité à nos clients. C'est vraiment la qualité, la qualité finale du produit qui prime sur l'envie de continuer, quoi.
C'est vrai que la qualité, nous, on la retrouve, hein, parce qu'on a quand même goûté une multitude de parfums, tous aussi bons les uns que les autres. Donc ça c'était vraiment aussi motivant, au jour le jour, motivant pour produire les glaces. En tout cas, merci de nous avoir régalé au quotidien et de nous avoir accueillis à ta ferme. Merci beaucoup, ouais, Hélène.
C'était un plaisir.
À très bientôt.
On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode en bonne compagnie.
Et si ce petit parcours à la ferme vous a plu, vous pouvez vous abonner à Business au Bouffe pour les autres épisodes.
Vous souscrire à un abonnement cultivons-nous.tv qui diffuse nos reportages vidéo.
Et vous pouvez suivre nos aventures sur notre compte Instagram @surlechamp2020 ou notre page Facebook Sur le Champ.
Allez, ciao !